בוקר טוב, ויעשו לפניי כסדר הזה, ils exécuteront devant moi cet ordre précis. Des propos de notre maître Maran Arav Odia Yosef Zecher Tzadik Kadosh Baruch Hu pour les jours du mois d'Elul. Nous disons dans les Selihot les Yud Gimel Midot Shel Rahamim, les 13 attributs de la miséricorde divine qui sont Hashem, Hashem, El Rahum, Vehanun, etc. dans le passage du Vayahavor. Ces 13 attributs de la miséricorde divine constituent le centre et l'essentiel des Selihot. Nos maîtres enseignent dans la Gemara Maseret Rosh Hashanah je cite, une alliance a été établie selon laquelle les 13 attributs de la miséricorde divine ne reviennent jamais inexaucés. Il est certain qu'ils seront agréés devant Hachem. Et pourquoi ? Parce qu'il est dit, Iné anochi koret berit, voici je conclue un pacte d'alliance. Hachem a conclu un pacte d'alliance avec nous, avec le Ham Israël, selon lequel si nous prononçons devant lui les 13 attributs de la miséricorde divine, Hachem se remplira de miséricorde envers nous. C'est pourquoi, lorsqu'on dit les 13 attributs de la miséricorde divine, on doit porter notre attention à ce que l'on dit. Vayahavor Hashem al panav vayikra, Hashem passa devant sa face, c'est-à-dire devant la face de Moshe, et s'exclama. Rabbi Yohanan dit, ce verset nous enseigne qu'Hashem s'est enveloppé dans un talit comme un officiant, comme un shaliach tzibur, un hazan, et indiqua à Moshe un ordre précis de prière. Hashem lui dit, chaque fois qu'Israël fauteront, ils n'auront qu'à exécuter devant moi cet ordre-là et je leur pardonnerai. Cela signifie que par la prononciation des 13 attributs de la miséricorde divine, les fautes d'Israël sont pardonnées. Mais nous devons comprendre, pourquoi est-il dit « chaque fois qu'Israël fauteront, ils n'auront qu'à exécuter devant moi cet ordre-là »« Yassou lefanaï » Le terme « dire »« veyomeru lefanaï » Le terme « dire » aurait été plus approprié. « Ils n'auront qu'à dire devant moi cet ordre-là » Quelle est l'explication de cet enseignement ? Pourquoi « ils n'auront qu'à exécuter » et non pas « ils n'auront qu'à dire » En réalité, il est dit dans la Torah « Ki tishmor et mitzvot Hashem elokecha vehalachta bidrachav » Si tu observes les commandements d'Hashem ton Dieu, tu marcheras dans ses voies. Nos maîtres expliquent ce verset dans la Gemara Maseret Sota daf Yud Dalet Amud Alef. Tu marcheras dans ses voies puisqu'il est rahum, puisqu'il est miséricordieux. Dieu, sois toi aussi Rahum, sois toi aussi miséricordieux. Puisqu'il est Hanoun, puisqu'il est clément, sois toi aussi clément. Marche dans les voies d'Hachem, imite Hachem Kavichol. D'une certaine, si on peut s'exprimer ainsi. Si un nécessiteux passe et te demande de la tzedaka et que tu lui réponds Irahem Hachem, Hachem aura pitié de toi. Depuis le ciel, on dira aussi la même chose vis-à-vis de toi. Où est ta rahamanout, où est ta miséricorde ? Un orphelin passe et te demande de l'aide et tu ne l'aides pas. Où est ta grande bonté, Rav Hesed ? Tu ne te comportes pas avec miséricorde. Pourquoi Hachem se comporterait-il avec miséricorde envers toi ? Comme un homme se comporte, ainsi on se comporte envers lui depuis le ciel. Emet me eretz titzmach vetzedek mishamayim nishkaf, comme il est marqué, il est écrit dans Tehilim, perek pehe, pasuk yudbet, la vérité germe de la terre, la justice brille depuis le ciel. On exprime à l'homme exactement ce qu'il exprime lui-même. C'est pour cela qu'Hachem dit à Moshe, ils n'auront qu'à exécuter, veya'asu lefanaï, ils n'auront qu'à exécuter devant moi cet ordre-là et je leur pardonnerai. Chaque fois qu'ils se comporteront eux-mêmes selon les qualités d'Hachem l'un envers l'autre, alors Hachem leur pardonnera. Dans les 13 attributs de la miséricorde divine, il est écrit Verav Hesed Vehemet. Il est d'une grande bonté, il est vérité. Ilfa, l'un de nos maîtres du Talmud, l'un de nos maîtres de la Gemara, pose une question. D'une part, il est dit Verav Hesed, il est d'une grande bonté. Et d'autre part, il est dit Vehemet, il est vérité. Comment concevoir les deux choses ? Si Hachem juge selon la vérité, comment peut-il juger également avec une grande bonté ? Il s'agit là de deux éléments opposés. Mais Ilfa répond à sa propre question. Au début, Hachem juge avec vérité, avec Emet. Mais à la fin, il juge avec grande bonté, avec Rav Hesed. Cela signifie qu'au début, on juge l'homme selon la vérité, selon ce qu'il mérite réellement et de manière très exacte. Mais on constate que l'homme ne pourra pas surmonter la sentence. Alors Hachem le juge immédiatement avec le Hesed, avec la bonté, avec la Rahamim, avec la miséricorde. Mais une difficulté persiste dans cette réponse. S'il en est ainsi, il aurait été plus juste de mentionner dans les 13 attributs de la miséricorde divine, d'abord Emet, vérité, et ensuite Verav Hesed, et ensuite la grande bonté, et pas l'inverse, puisque l'on juge d'abord selon la vérité, le Emet, et seulement ensuite selon le Hesed, selon la bonté. On répond avec une histoire apportée dans le Midrash Yalkut Shimaoni au sujet d'un roi qui était bon et qui avait un homme qui lui était proche et qui aimait beaucoup le roi. Cet homme allait et faisait l'éloge du roi. Regardez quel roi noble nous avons. Quelle bonté de cœur il a. Combien il se soucie de ses citoyens. Au point où le cœur du peuple s'attacha au roi, tout le monde adulait le roi. Le roi savait tout cela. Il savait qui lui faisait autant de bien en attirant l'amour du peuple envers lui, et il garda les choses dans son cœur. Un jour, cet homme bienfaiteur du roi se heurta à une grave infraction de la loi du pays. Mais puisqu'il était un notable, son jugement fut confié à 5 juges très expérimentés. Les juges étudièrent correctement son dossier et ils déclarèrent au final, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de favoritisme. Cet homme a commis une grave infraction à la loi et il faut lui imposer 1 an d'emprisonnement. L'un des juges, qui était un ami de l'accusé, se tourna vers les autres juges et leur dit : Mes amis, il ne fait aucun doute que la vérité est avec vous. Cet homme a commis une infraction et il mérite cette peine. Mais nous pouvons peut-être lui donner une alternative. Écrivons dans la sentence que s'il paie une amende d'un très gros montant, par exemple 100 000 $, l'équivalent de 100 000 $ au trésor du roi, il pourra racheter ainsi son emprisonnement. Nous savons pertinemment que cet homme ne possède pas une telle somme. Mais malgré tout, donnons-lui cette possibilité. Les juges écoutèrent la proposition et acceptèrent. On écrivit dans la sentence que cet homme doit être emprisonné durant 1 an. S'il paye 100 000 $ au trésor royal, il pourra ainsi racheter sa peine d'emprisonnement. La sentence fut signée et prenait effet au bout de 30 jours. Ce pauvre homme n'avait pas une somme aussi importante. Il essaya de se procurer cette somme à travers des prêts d'organismes de charité. Mais chacun lui répondit qu'il ne pouvait lui prêter que, on va dire, 5 000 $. Ainsi, il tournait d'un organisme à l'autre en se désespérant, car il comprit qu'il n'avait plus d'autre choix que d'aller en prison. La dernière nuit avant son emprisonnement, tous les membres de sa famille vinrent le trouver pour lui dire au revoir et tout le monde pleurait. Mais vers 22 h, chacun s'en alla et le laissa avec sa famille proche, sa femme et ses enfants. Cette même nuit, le roi ne trouva pas le sommeil. Il se renseignait au sujet de son ami et savait qu'il n'avait pas réussi à se procurer la somme d'argent pour acheter sa peine d'emprisonnement. Que fit le roi ? Il prit une valise et y plaça 1 000 billets de 100 $ et il appela son fils, l'héritier du trône, et il lui dit « Mon fils, comment puis-je abandonner un tel homme qui a donné sa vie pour mon bien ? Comment puis-je me comporter de la sorte ? Je dois me soucier de lui, mais il est interdit que l'on sache que je lui apporte mon aide. C'est pourquoi je te demande de prendre cette valise et vers 2 h du matin, va à côté de la maison de mon ami, brise la vitre d'une fenêtre et jette la valise à l'intérieur. Ensuite, fuis immédiatement. » L'héritier du trône se rendit vers 2 h du matin vers la maison de l'ami du roi. Il vérifia qu'il n'y avait personne aux alentours. Il brisa la vitre d'une fenêtre, y jeta la valise et s'enfuit à toute vitesse. L'ami du roi et sa famille entendirent le bruit du bris de la vitre au milieu de la nuit. Ils se levèrent immédiatement de leur lit et allumèrent la lumière. Ils virent une valise. Dans un premier temps, ils soupçonnèrent un colis piégé ou autre. Ils observèrent mais ne virent qu'aucun fil ni autre élément suspect. Ils ouvrirent lentement la valise et là, tout le monde s'exclama « Waouh ! Que des billets verts !» Ils comptèrent l'argent et constatèrent qu'il y avait exactement la somme de 100 000 $. Au matin, l'homme se rendit au bureau d'application des peines et donna l'argent qui fut compté. On lui donna immédiatement un reçu en lui disant que si on l'interpellait, il n'avait qu'à montrer ce reçu qui attestait qu'il avait payé son amende et qu'il était à présent complètement acquitté. L'homme retourna chez lui dans la joie et l'allégresse et il ne lui arriva rien. Ceci est l'explication de l'ordre des 13 midot shel rahamim, des 13 attributs de la miséricorde divine. Verav hesed, Hachem est d'une grande bonté, ve'emet, et il est vérité. Car même lorsqu'Hachem juge l'homme selon la vérité, en réalité tout n'est que bonté. Hachem envoie la guérison avant la plaie, Makdim Refu Alamaka, comme il est enseigné dans la Gemara Maseret Pesachim, Daf Kuf Yud Het Amud Alef, sur le verset de Tehilim. Hodou l'Hachem Kitov, Kil Alam Hasdo, dans Tehilim Kuf Lamedvav, Pasuk Alef, entre autres. Remercie Hachem car il est bon, car sa bonté est éternelle. Hachem est éternellement d'une grande bonté, même lorsqu'il châtie l'homme. Remercie Hachem car il prélève sa dette à travers le bien de l'homme. Un riche à travers son bœuf, un pauvre à travers son agneau. Hachem procure à chacun un bien financier afin de pouvoir ensuite prélever ce qui lui est dû. L'homme se retrouve donc ne manquant dépend de rien. Comme ce roi qui a fait juger son ami selon la vérité, mais en réalité, tout n'était que bonté, car le roi paya l'amende à partir de l'argent qu'il lui avait lui-même donné. C'est pour cela que chacun se doit de tout accepter avec amour. Un homme est gratifié par Hachem et il lui procure une vache laitière. L'homme se réjouit de cette vache, mais voilà qu'un matin, il trouve sa vache morte. Que va-t-il dire ? Para, kapara, la vache, kapara, que cette vache soit mon expiation. Hachem a eu pitié de lui, et c'est pourquoi il lui a d'abord donné une vache, afin de pouvoir la prélever de lui, car ne pas tenir compte des fautes de l'homme est impossible. Mais à travers une telle expiation, qui constitue une épreuve d'amour, l'homme peut être expié. En ces jours, qui jour du mois d'Eloul, l'homme doit certes dire qu'il accepte tous les décrets et qu'il est reconnaissant envers Hachem pour toutes ses décisions. Mais avant tout, il doit faire devancer l'épreuve par la prière. Il doit se lever et dire les Selihot, donner de la Tzedaka, car la Tzedaka expie les fautes. Nos maîtres enseignent qu'au lieu de perdre tout son argent, l'homme doit donner la Tzedaka et il obtiendra la Kapara, il obtiendra l'expiation de ses fautes. L'homme qui donne la Tzedaka se verra prendre en pitié depuis le ciel. Il est enseigné dans la Gemara au sujet de Rabban Yohanan ben Zakkai, qui était l'un des plus grands, les plus illustres Tannaïm de l'époque de la Mishnah, que ses neveux possédaient un important commerce. Une nuit, Rabban Yohanan ben Zakkai vit en rêve que les autorités allaient bientôt venir chez ses neveux pour leur réclamer d'importants impôts, au point de leur prendre tous leurs biens. Que fit Rabban Yohanan ben Zakkai ? Le matin, il se rendit au magasin de ses neveux et leur dit « Mes enfants, il y a un orphelin et une orpheline qui doivent se marier et ils n'ont rien. Donnez-moi, s'il vous plaît, de la tzedaka. » Ils lui dirent « Combien veux-tu ? » Il leur répondit une somme équivalente, on va dire, à 1000 dollars. Ils lui donnèrent la somme. Rabban Yohanan ben Zakkai prit la somme et la donna aux orphelins. Le lendemain, il vint de nouveau les trouver en leur disant « Nous montons une yeshiva et nous n'avons pas d'argent. Aidez-nous. » Ils lui répondirent « Combien veux-tu ? » Il leur dit une somme équivalente à 10 000 dollars. Il lui donnèrent et Rabban Yohanan ben Zakkai investit la somme dans la yeshiva et ainsi de suite. Il vint les trouver chaque jour en leur demandant de l'argent pour de la tzedaka. Un mois plus tard, les autorités arrivèrent soudain pour réclamer l'impôt et indiquèrent une très grosse somme au neveu de Rabban Yohanan ben Zakkai. Pour honorer cette somme, les autorités confisquèrent tous leurs biens. Les neveux de Rabban Yohanan ben Zakkai se rendirent chez leur oncle et lui dirent ce qui leur était arrivé. Rabban Yohanan ben Zakkai leur dit « J'avais déjà vu tout cela en rêve et j'ai voulu sauver au maximum votre argent. » À présent, ne vous faites pas de soucis. Ils ne vous prendront que 1000 pièces d'or. Et ensuite, ils vous acquitteront. Si vous m'aviez donné également ces 1000 pièces d'or que je n'ai pas eu le temps de vous réclamer, ils ne vous auraient pas réclamé la moindre pièce. C'est évident. C'est évidemment ce qui se passa. Cela signifie que lorsqu'un homme donne de la tzedaka aux veuves, aux orphelins, aux étudiants de la Torah, on lui déduit ces sommes de ce que d'autres viendront lui prendre. Nos maîtres enseignent que lorsqu'un homme est méritant, il se voit réaliser en lui le verset qui est écrit dans Yeshaya, Perek Nun Het Pasuk Zayin, « Halo paros la ra'ev lahmecha » Partage ton pain avec l'affamé et en donnant la tzedaka aux nécessiteux. Mais s'il n'est pas méritant, il se verra réaliser en lui la suite de ce même pasouk, de ce même verset. Va'aniyim merudim tavibait. Tu amèneras à ton foyer des malheureux sans asile. Car les gens des impôts sont comparables à des mendiants puisqu'ils réclament toujours sans cesse. Ils viendront donc à son foyer et lui prendront son argent. C'est pourquoi un homme sage sait agir en faisant le bon calcul. Si tu es sage, tu ne l'es que pour toi. Il doit agir avec sagesse en multipliant les actes de tzedaka. Celui qui est pieux l'est envers lui-même. Celui qui prodigue du bien à lui-même est un homme de bien.